France Info.
Et des inondations dans l'ouest du pays, même si la situation commence à peine à s'améliorer. Il faudra encore des jours avant le vrai début de la décrue, encore des jours difficiles qui s'annoncent pour les sinistrés. Il est 6 heures. C'est un revers douloureux pour Donald Trump. La Cour suprême juge illégale la plupart des taxes douanières du président américain, frappant le cœur de sa politique économique. Une marche sous très haute sécurité aujourd'hui à Lyon. L'ultra-droite appelle à un hommage au militant identitaire Quentin de Ranque, mort sous les coups de militants de l'ultra-gauche. Au jeu d'hiver de Milan Cortina, les dernières heures de compétition pour les Bleus et les dernières chances de médailles avec notamment le ski alpinisme, le ski de fond et le biathlon. Et le football, une défaite pour l'OM, battue 2-0 à Brest hier soir pour le premier match sur le banc marseillais du nouvel entraîneur Habib Bey. Et on l'apprenait il y a quelques minutes, le ministère de la Justice annonce le déclenchement d'une alerte enlèvement pour retrouver 3 enfants âgés de 6 semaines à 2 ans. Le nourrisson a été enlevé à Épinay-sur-Seine, son frère et sa sœur simultanément enlevés alors qu'ils étaient confiés à l'aide sociale à l'enfance. Les 2 suspects recherchés sont les parents des 3 enfants, Abdelkader Ben Abderrahman et Shaima Attab, âgés respectivement de 24 et 20 ans. Le ministère demande de ne pas intervenir soi-même en cas de localisation des enfants, mais d'appeler le 197 ou d'envoyer un email à l'adresse alerte-enlèvement@intérieur.gouv.fr. C'est un camouflé pour Donald Trump. La Cour suprême américaine juge illégale une bonne partie des droits de douane décrétés par le président américain depuis son retour à la Maison-Blanche. C'est le pilier de sa politique économique qui est aujourd'hui remis en cause, alors que la Cour suprême est composée en majorité de juges conservateur. La contre-attaque de Donald Trump a été immédiate avec une attaque rarissime contre les juges de la Cour suprême. Donald Trump qui riposte aussi en signant un décret imposant une nouvelle taxe mondiale de 10% pour les importations.
D'autres alternatives seront désormais utilisées pour remplacer celles que la Cour a rejetées à tort. Je vais signer un décret pour imposer un droit de douane mondial de 10% qui va s'ajouter à nos droits de douane normaux déjà en vigueur. Nous allons prendre également d'autres mesures et dispositions afin de protéger notre pays contre les mesures commerciales déloyales d'autres États et entreprises. Cela pourrait représenter plus d'argent. Nous allons engranger plus d'argent et cela nous rendra beaucoup plus forts. Ça nous rapportait des centaines de milliards de dollars. Nous allons continuer à le faire.
Donald Trump. Et dans quelques minutes, on sera pour des explications et des précisions avec le correspondant de France Info à Washington. Il est 6h03. Une marche en hommage au militant identitaire Quentin de Ranque, battu à mort par des militants d'ultra-gauche, est organisée cet après-midi à Lyon. Elle sera encadrée par un très gros dispositif des forces de l'ordre, les autorités redoutant des affrontements entre les militants des deux extrêmes. Les précisions d'Emmanuel Leclerc.
Finalement, c'est un énorme dispositif sécuritaire qui sera mis en place à Lyon pour cet après-midi, constaté hier soir un policier de la ville. 4 compagnies de CRS, 2 escadrons de gendarmes mobiles, auxquels s'ajoutent près de 500 policiers locaux, 2 drones et même la brigade fluviale. Tout cela alors que le renseignement territorial ne prévoyait pas ces derniers jours de mobilisation de l'ultra-gauche de la région et encore moins de renforts venus d'Italie ou d'Allemagne. Reste 600 membres considérés comme radicaux de l'ultra-droite, annoncés et surveillés donc de très près par des centaines d'agents. Mais pour plusieurs sources du ministère de l'Intérieur, joint hier soir, ce n'est pas forcément à Lyon que les risques de débordement, voire d'accrochage entre militants d'extrême droite et de l'ultra-gauche sont les plus élevés, les plus redoutés, comme à Brest par exemple, où les tensions se multiplient depuis plusieurs mois. Une centaine de militants de l'ultra-gauche de toute la région ont montré les muscles avant-hier soir, et pour un responsable des forces de l'ordre, si la compagnie de CRS présente dans la ville n'était pas intervenue au bon moment, la situation aurait pu totalement déraper.
Emmanuel Leclerc, d'autres marches sont prévues en France tout au long du week-end à l'appel de l'ultra-droite. Le salon de l'agriculture est inauguré ce matin par Emmanuel Macron, sans vaches cette année pour cause d'épidémie de dermatose et sans la Confédération paysanne ni la Coordination rurale qui boycottent le rendez-vous traditionnel entre les syndicats et le président. La Coordination rurale, notamment 2e syndicat agricole, a prévenu que l'accueil risque d'être rude. Un important dispositif de sécurité va donc entourer le chef de l'État. Ensuite, à l'approche de la présidentielle de l'an prochain et des municipales de mars, les personnalités politiques vont se succéder dans les allées du salon. Audrey Tison.
Gabriel Attal, Bruno Retailleau, François Hollande, Marine Tondelier, Jordan Bardella, ils vont tous passer au moins une journée sur le salon. Seule tête d'affiche manquante, Jean-Luc Mélenchon, qui boycotte ce rendez-vous depuis des années. Pour les autres, c'est d'abord un plaisir, glisse un élu. Mais il le concède, il y a aussi un côté passage obligé. C'est surtout devenu un rendez-vous de mise en avant des politiques, déplore une conseillère d'un présidentiable qui lui préfère déambuler sans les caméras. D'autant que chaque rencontre révèle son lot de surprises. Entre un jet d'œuf et des sifflets, aucun élu n'est à l'abri de subir la colère paysanne. En pleine tension autour du traité avec le Mercosur, de la maladie bovine DNC ou de la politique agricole commune, la coordination rurale a même indiqué que tout le monde ne sera pas le bienvenu sur son stand.
Audrey Tison du service politique de France Info, et c'est une journée spéciale aujourd'hui sur France Info pour l'ouverture du salon de l'agriculture avec des points très réguliers en direct du salon avec les envoyés spéciaux et les invités de France Info. De fausses alertes à la bombe ont visé au moins 4 lieux emblématiques à Paris hier soir, la Tour Eiffel, le Bataclan, la Tour Montparnasse et Sciences Po Paris, avec des messages prévenant de la présence d'explosifs. 2 de ces lieux ont dû être évacués le temps des vérifications par les forces de l'ordre. Les crues, toujours menaçantes ce matin dans l'ouest du pays. 3 départements restent en vigilance rouge de Météo France. Le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique et la Charente-Maritime. En Gironde, le gros de la crue est passé. Et par exemple, à la Réole, au sud-est de Bordeaux, on est revenu la nuit dernière sous la barre des 9 mètres d'eau. La décrue sera très longue, mais le nettoyage a déjà commencé. Sur place, pour France Info, Jules Brelaz.
Avec son nettoyeur à haute pression, Frédéric tente de repousser la boue laissée par la Garonne sur les quais de la Réole.
C'est une bagarre qui va durer assez longtemps ce coup-ci, je pense, avec Dame Garonne.
Dès que l'eau se retire un peu, il faut tout de suite intervenir, explique son collègue Philippe.
Le limon qui s'est accumulé, il ne faut pas qu'il sèche justement pour qu'on puisse l'enlever un petit peu plus facilement, quoi. Sinon, si ça sèche, c'est très difficile de décoller. Et en plus, avec le courant, tout ça, il y a des branches, du gravier, pas mal de travail en perspective.
Mais c'est le niveau de la Garonne qui donne le tempo de ce nettoyage, rappelle Mario Covolan, l'adjoint au maire de la Réole chargé de la voirie, et avec une décrue plus lente que prévu.
Bien sûr, ça joue sur les mers. On est dans l'inconnu, on est stressé, on se prépare, on s'arrête, on repart. Donc malheureusement, nos prévisions de baisse assez rapide tombent à l'eau, comme on peut dire. Surtout que derrière, au niveau du tonnage, ils annoncent une remontée. Donc on est dans l'inconnu.
Un nettoyage qui va prendre du temps, mais qui a bel et bien commencé à l'arrière.
Jules Brelaz, d'ici Gironde pour France Info. Les dernières heures de compétition pour les Bleus aux Jeux de Milan-Cortina. Les dernières chances de médailles aujourd'hui en ski alpinisme après le bronze de Thibaut Anselmé et l'argent d'Émilie Arop dans le sprint. Cette fois, ils visent ensemble la médaille d'or dans le relais mixte. Pour le ski de fond, c'est le 50 km qui va clôturer les épreuves de la discipline. Le 50 km hommes aujourd'hui et femmes demain. Et pour le biathlon, la dernière course de la quinzaine olympique, la mass start féminine cet après-midi avec encore des chances de médailles côté français, notamment pour Julia Simon, déjà 3 médailles d'or sur ces Jeux d'hiver, ce qui l'a fait rentrer dans le cercle très fermé des Françaises avec 3 titres olympiques. La Savoyarde qui a vécu une saison compliquée après une condamnation judiciaire en septembre dernier et sa suspension dans la foulée, mais elle peut compter sur ses proches, dont ses copines d'enfance présentes au bord de la piste d'Anterselva. Sur place, Jérôme Val les a rencontrées pour France Info.
3 fois sur la plus haute marche du podium en 4 courses, 3 titres comme Marie-Josée Pérec, Félicia Ballanger et Clarisse Agbenin.
Julia Simon !
Noémie connaît Julia Simon depuis une vingtaine d'années.
C'est vrai que maintenant qu'on le dit, elle a quand même 3 médailles d'or et elle nous épate. On est déjà hyper fiers d'elle, hyper heureuse de tout ce qu'elle a fait pendant ces 10 jours des JO. Et enfin, nous, en tout cas, elle nous régale.
À 29 ans, Julia Simon se construit l'un des plus beaux palmarès du circuit. Après ses déboires extra-sportifs en début de saison, la voilà au sommet. Sa force de caractère pour tout surmonter impressionne Anna. Elles se sont connues enfant au ski de fond.
C'est quelqu'un, dans tous les cas, qui arrivera toujours à s'en sortir. C'est une vraie battante. Et elle sait ce qu'elle vaut, on sait ce qu'elle vaut. Et rien qu'avec ça, elle arrivera toujours à avancer.
Avec leur bonnet couleur léopard, les copines de Julia Simon, venues du Beaufortin en Savoie, seront encore là cet après-midi pour la soutenir dans un ultime défi.
Non, elle n'a pas fait une obsession sur ses médailles, mais elle a fait une obsession sur le fait d'être prête, de profiter. On vit un rêve, en tout cas à travers elle. Mille merci. Enfin, c'est vraiment exceptionnel ce qu'on vit en tant que proche au bord de la piste.
Julia Simon peut de son côté rêver à une nouvelle Marseillaise pour conclure 2 semaines presque sans faute.
Jérôme Val au bord de la piste d'Anterselva pour France Info. Rendez-vous à 14h15 pour vivre la course en direct pour le départ de cette mass start féminine. Et les Jeux de Cortina, on en reparle dans une demi-heure dans l'Infosport. Tout de suite à 6h10, la première tendance météo de ce samedi avec Patricia Charbonnier. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Alors un temps plus calme, mais aussi des températures à la hausse.
Bonne nouvelle, c'est la douceur qui va s'installer à partir de ce week-end. Météo France prévoit jusqu'à 20 degrés cet après-midi à Toulon, 14 degrés à Nantes, 12 à Nancy, 11 degrés à Strasbourg. Et côté ciel, c'est encore assez contrasté. Sur la moitié nord, ça reste encore très nuageux, avec quelques pluies ce matin le long des frontières du nord, sur le quart nord-est, la Bourgogne, la Franche-Comté, de la Bruyne dans la partie ouest. Une petite dégradation pluvieuse cet après-midi sur les côtes de la Manche, alors que dans le sud, c'est le soleil qui va s'imposer. Attention en montagne, le risque d'avalanche est toujours très élevé dans les Alpes.
La météo avec Patricia Charbonnier. On se retrouve dans une vingtaine de minutes, juste avant 6h30, pour une carte météo complète.
L'œil de Julie, du vendredi au dimanche sur France Info.
Bonjour, c'est Julie Vialon, je vous retrouve chaque fin de semaine. On décrypte ensemble Internet, les réseaux sociaux et la pop culture.
Le vendredi à 7h55 et le week-end à 7h45, l'œil de Julie avec Julie Vialon sur France Info.
À retrouver sur l'application Radio France et sur franceinfo.fr.
On est dans les prochaines minutes avec le maire de Chef-sur-Sarthe, dans une région très touchée par les inondations. Il était hier soir l'invité de France Info alors qu'il venait de terminer de faire évacuer son village complètement sous les eaux. Mais d'abord, direction Washington.
France Info, 6h-7h, Jean-Christophe Martin.
Il est 6h11, c'est une décision de la Cour suprême américaine qui fera date, la plus haute juridiction des États-Unis a infligé un cuisant revers à Donald Trump en jugeant illégaux une grande partie des droits de douane adoptés l'an dernier et qui vise plus d'une centaine de pays. Bonjour Franck Matvon.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de France Info aux États-Unis. Le président américain n'a pas attendu pour une contre-attaque visant frontalement la Cour suprême elle-même.
Oui, il est rarissime d'attaquer les juges de la Cour suprême, une institution très respectée aux États-Unis, et Donald Trump ne s'en est pas privé. Il dit avoir honte des 6 magistrats sur 9, dont 2 qu'il a lui-même nommés, qui ont désavoué ses droits de douane. Il les traite d'idiots, de caniches au service de la gauche radicale. Il les accuse de déloyauté envers la Constitution. Et Donald Trump ajoute même ceci. Je pense que la Cour a été influencée par des intérêts étrangers et un mouvement politique bien plus insignifiant que ce que vous pouvez imaginer, un petit mouvement. J'ai gagné avec des millions de voix d'avance, une victoire écrasante. C'était un dossier important pour moi, en tant que symbole de notre sécurité économique nationale et juste pour le bien de notre pays, car notre pays se porte si bien, mieux que jamais. Voilà, une cour sous influence étrangère aurait donc fait vaciller sa politique commerciale. Les juges présentent pourtant des arguments purement juridiques. Ils estiment que Donald Trump ne pouvait pas recourir à une loi d'urgence de 1977 pour imposer ses droits de douane. C'est au Congrès, disent-ils, de fixer ses taxes.
Oui, mais Donald Trump ne s'avoue pas vaincu et refuse de s'incliner devant la décision de la Cour suprême.
Oui, pour le président américain, cette décision lui donne au fond plus de pouvoir. Elle le prive certes d'un outil législatif, mais il y en a d'autres. Rien ne l'empêche d'imposer des droits de douane. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux, les accords spécifiques à certains pays notamment, restent en vigueur. Donald Trump a donc signé dans la soirée un décret imposant une nouvelle taxe mondiale aux importations de 10% qui s'appuie sur un tout autre texte. Ces droits entreront en vigueur mardi pour 150 jours et visent presque tous les pays et tous les produits. La Maison-Blanche a accordé quelques exceptions comme le bœuf et les tomates pour ne pas faire flamber les prêts à la consommation. Mais qu'en est-il des droits de douane que la Cour a annulés hier ? L'administration devra-t-elle rembourser des milliards de dollars aux importateurs qui ont dû les payer ? Beaucoup d'entreprises ont prévu d'attaquer, ce qui pourra entraîner un énorme casse-tête administratif. Une nouvelle bataille judiciaire s'ouvre. Donald Trump et son gouvernement ont fait passer le message : on ne cédera pas. Tout sera mis en œuvre pour poursuivre cette politique commerciale.
Franck Matvon, le correspondant de France Info à Washington.
À 6h14 sur France Info, il fait 12 degrés à Rennes.
Les crues vont persister tout le week-end, voire au-delà. C'est l'avertissement de Vigicru pour les 3 départements encore placés en vigilance rouge, la Loire-Atlantique, la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire. Exemple tout de suite avec le maire de Chef-sur-Sarthe, Marc Dutruel. Il était l'invité de France Info hier soir. Il venait tout juste de finir l'évacuation l'évacuation de ce village d'un gros millier d'habitants.
Nous avons évacué les derniers habitants du village avec les pompiers et la gendarmerie. Nous avons mis en place un protocole avec monsieur le préfet, avec les référents de quartier. Donc nous avons évacué les derniers villageois. Et je dirais, comme un capitaine de bateau, eh bien, puisqu'il n'y a plus de lumière dans le village, je viens de récupérer ma femme qui était dans le nord depuis 2 heures. Et moi-même, je viens de traverser un bras de rivière pour sortir de chez moi et aller m'abriter ailleurs.
Votre maison, à vous, est inondée également. C'est inédit, tout également. Le village évacué ?
Alors, non, c'est pas inédit. Il y a déjà eu des précédents, puisqu'en 95, donc la crue du siècle, où le village avait été évacué. Mais là, à l'époque, c'est vrai que c'était une décision préfectorale. Là, nous avons pu, grâce aux moyens techniques qui n'existaient pas il y a 30 ans, nous avons pu anticiper. Donc moi, depuis le dimanche 15 février à 10h30, j'ai déclenché ma cellule de crise. Et donc, nous avons prévenu, puisque nous avons des logiciels qui permettent de savoir quand est-ce que les maisons sont inondées, et tout est répertorié, habitants, maisons. Et donc, nous avons anticipé la chose. Donc, depuis la cote 5,50 m, nous avons prévenu les gens 20 cm avant, si bien qu'ils avaient le temps de mettre leurs biens en sécurité, et ainsi que les personnes. Et donc, ils ont pu évacuer au fur et à mesure. Et donc, nous avons évacué les dernières personnes, tout simplement parce que nous avons atteint la côte, limite, où il faut couper le courant sur tout le village. Donc, il est impossible de rester dans le village. Nous sommes dans les Basses Vallées Angevines. Alors, c'est un superbe endroit, les Basses Vallées Angevines, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que nous sommes à la réunion de 3 rivières qui sont la Mayenne, la Sarthe, le Loir, qui donnent dans la Maine. Et donc, qui se jette elle-même dans la Loire. Et moi, je suis juste au niveau de l'entonnoir. C'est-à-dire, je suis vraiment au niveau de la confluence. Je suis sur la Sarthe, mais c'est à la confluence de ces 3 rivières. Et si bien que là, comme la Loire est en creux également, elle bloque les écoulements des eaux. Et donc, c'est pour ça que la commune de Chef se trouve principalement affectée.
Le maire de Chef sur Sarthe, Marc Dutruel, il répondait sur France Info à Julien Langlais. Dans les prochaines minutes, les craintes des Lyonnais dans le quartier de la Croix-Rousse avant la marche organisée aujourd'hui à l'appel de l'ultra-droite pour un hommage à Quentin Derenque, ce militant identitaire mort après avoir été passé à tabac par des militants d'ultra-gauche.
BMW. 3 notifications, 10 postes, 5 alertes. Et pourtant, vous n'allez retenir qu'une seule chose. Votre BMW Finition M-Sport a un loyer exceptionnel et sans aucun apport. Jusqu'au 31 mars, pendant les jours M-Sport, prenez le volant de votre BMW des 290€ par mois, sans apport.
Offre valable pour une BMW 1 16 M-Sport Design. LLD 39 mois, 30 000 km. Réservé aux particuliers si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice.
Dahlia, de sexe féminin, âgée de 6 semaines, a été enlevée le 19 février 2026 à Épinay-sur-Seine. Son frère et sa sœur, Naël, 18 mois, et Éline, 2 ans et demi, ont été enlevés simultanément. Ils étaient confiés à l'ASE. Ils ont les yeux et cheveux bruns. Dahlia née prématurément présente une cardiopathie. Sa prise en charge médicale est indispensable dans les 48 heures. Les suspects sont les parents, Abdelkader Ben Abderrahman, 24 ans, 1m70, mince, cheveux et yeux bruns, possible griffure au visage. Shaïma Attab, 20 ans, mesurant entre 1m62 et 1m65, mince, cheveux et yeux bruns, ils sont susceptibles de tenter de quitter le territoire national. Si vous localisez les enfants, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte-enlèvement@intérieur.gouv.fr.
France Info. 6h-7h.
L'essentiel de l'actualité à 6h19, c'est avec Pierre Boudias. Bonjour Pierre.
Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous.
Et le premier titre de ce samedi, des milliers de militants identitaires attendus à Lyon.
À l'occasion d'une marche en hommage à Quentin Derenque, membre de la mouvance d'extrême droite, battu à mort il y a une dizaine de jours. 6 personnes, dont un assistant parlementaire LFI, ont été mis en examen pour homicide ou complicité dans ce dossier. La préfecture, qui a refusé d'interdire le rassemblement, promet un dispositif policier extrêmement important. Emmanuel Macron donne donnera lui ce matin le top départ du salon de l'agriculture. L'événement se tient cette année sans bovins en raison des restrictions liées à l'épidémie de dermatose nodulaire. Coordination rurale et Confédération paysanne annoncent qu'elles boycotteront le petit déjeuner organisé autour du chef de l'État. Jeunes agriculteurs et FNSEA seront eux bien présents. Une terrible décision et des juges soumis à une influence étrangère. Réaction ulcérée hier de Donald Trump après la décision de la Cour suprême de déclarer illégaux les droits de douane réciproques instaurés par Washington. Le président a immédiatement répliqué en signant un nouveau décret qui instaure des droits de douane mondiaux de 10%. Et puis les débuts difficiles d'Habib Bey hier à Brest, son Olympique de Marseille s'incline 2-0 sur la pelouse des Bretons pour la première rencontre de l'entraîneur sur le banc.
Une marche organisée à l'appel de l'ultra-droite et donc, va donc se dérouler cet après-midi à Lyon. La préfecture a finalement accepté de l'autoriser sur un parcours d'à peine un peu plus d'un kilomètre et demi jusqu'au lieu où est mort Quentin Derenque jeudi dernier, ce militant identitaire roué de coups par des militants de l'ultra-gauche. Pour éviter des débordements ou des violences, la préfecture interdit en revanche toute autre manifestation sur un très large périmètre, dont par exemple les pentes du quartier de la Croix-Rousse, un quartier où on craint des violences après la marche. On s'étonne d'ailleurs que même très courte, elle ait finalement été autorisée. Sur place, à Lyon, pour France Info, Julie-Marie Lecomte.
Le quartier des Canuts, autrefois des ouvriers de la soie, embourgeoisés mais toujours bastion de la mouvance antifa. Sur les murs, des affiches « Éteignons la flamme », le groupuscule qui a pris le relais de la jeune garde. On est loin du parcours autorisé, ce qui n'empêche pas ses habitantes de penser que le quartier peut être ciblé.
Parce que c'est un quartier de bobos, ça va être le bordel, ceux qui sont cagoulés ou pas, tout le monde va casser n'importe quoi et on l'a déjà vu.
Elles promènent leurs chiens ensemble, celui d'Evelyne est éborgné.
Ouais, on dirait qu'ils ont ma peau.
Ah ça y est, parce que je suis de droite.
Evelyne, à qui il est arrivé de voter Rassemblement National, Alice qui donne des cours de français à des sans-papiers, pas d'accord sur la décision d'autoriser le défilé.
Le maire de Lyon n'était pas pour cette marche, mais le Premier ministre a donné son autorisation.
Ça va péter.
Autant que ça soit cadré, quoi.
Ils ont annoncé 2 à 3 000 personnes, quand même.
Alors, bah, vaut mieux que ça soit cadré, alors. Mais il l'aurait fait quand même. Il l'aurait fait quand même.
Non, peut-être pas autant. Ça aurait pas eu le même impact, quoi qu'il en soit.
Une marche dépolitisée. À l'appel de la famille, elles disent qu'elles auraient, en revanche, peut-être pu y aller ensemble.
Je ne peux pas du tout vous dire oui sûr, je suis une brave fille et j'y serais allée à la première seconde. Mais peut-être qu'en réfléchissant, en pensant à la façon dont je vieillis, dont j'espère que la violence se calme, peut-être.
Mais ce défilé-là, organisé par des ultras, même l'électrice du RN n'ira pas.
J'aurais été une gamine, ouais, de 20 ans, ouais, j'y serais allée, pas de souci. Mais à mon âge, non, j'ai pas envie de me retrouver dans la violence.
La violence, Evelyne se dit que c'est une défaite collective. Alice, elle, avec son cœur à gauche, rumine contre les insoumis.
La façon dont ils sont défendus, je trouve que ça tient pas la route. Ils creusent leur tombe avec leurs paroles. Le RN devient un parti de braves gens.
C'est ça.
Alors qu'on sait que c'est, surtout à Lyon, on sait que c'est pas ça.
Cet après-midi, Evelyne restera chez elle. Alice regardera une série pour ne pas voir le défilé, même pas à la télé.
Julie-Marie Lecomte à Lyon pour France Info. Il est 6h23 et c'est l'heure des experts cinéma de France Info. Matteo Maestrachi avec Renaud Blanc.
C'est l'heure de notre rendez-vous cinéma avec notre expert Matteo Maestrachi, service culture de France Info. Bonjour Matteo.
Bonjour Renaud.
Vos conseils sur les sorties en salle, Matteo, pour vous, c'est le film de la semaine et même déjà un grand film pour 2026. Marty Suprême avec Timothée Chalamet.
Un jeune homme frêle et fauché mais extrêmement déterminé qui tente de se faire une place dans le monde et dans l'Amérique des années 50 grâce à son talent au tennis de table, Marty Mauser va enchaîner les mensonges, trahisons et arnaques pour espérer se hisser au sommet. Dans le rôle de ce loser magnifique, un Timothée Chalamet exceptionnel, encore meilleur qu'en Bob Dylan l'an dernier, le réalisateur Josh Safdie nous a parlé de son Marty, personnage à la fois antipathique et très attachant.
Everybody can relate on some level. To this concept of dream.
Tout le monde peut forcément s'identifier au concept de rêve, de quête, d'estime de soi, en particulier lorsqu'on est jeune, et c'est un film sur la jeunesse. Quand on est jeune, les conséquences de nos actes nous paraissent très abstraites, parce que le monde nous semble immense. Et on se dit, puisque le monde est si grand, que si on rate ici, on peut tenter d'aller réussir ailleurs.
But the world is so large that I can maybe go over here and pursue something else.
Excuse me, do I know you?
I don't think so.
And you want to buy dinner for my entire table tonight?
Yeah, is that okay?
Why?
What do you mean, why? Do I need a reason?
And I think in that regards, the movie is about being dumb when you're young.
Selon cette idée, le film parle d'être idiot quand on est jeune et ça rend Marty irritant. Mais c'est aussi un romantique. Et son désir de vie, de réussir, de grimper, c'est ce qui l'adoucit. Et le fait que son rêve soit modeste le rend aussi attachant.
His dream being a small one is also very endearing.
Après avoir réalisé avec son frère les excellents Good Time et Uncut Gems sur des marginaux new-yorkais, Josh Safdie récidive avec davantage de moyens, certes, un budget de 70 millions d'euros pour un film déchaîné qui mélange comédie et polar, à la fois vintage et moderne, qui puise aussi dans la culture juive et l'Holocauste pour raconter un bout de l'histoire de l'Amérique avec une bande-son anachronique mais géniale et des seconds rôles eux aussi formidables. Ne manquez donc surtout pas, si vous nous écoutez, Marty Supreme en lice pour 9 Oscars le 15 mars prochain.
Une autre star américaine que l'on retrouve, Mathéo, dans un film français cette fois, c'est la comédienne Angelina Jolie dans Couture d'Alice Vinocourt.
Personnage principal d'un récit qui se veut choral, plusieurs parcours de femmes qui vont se croiser pendant une fashion week à Paris, Angelina Jolie et Maxine Walker, réalisatrice à la mode de films fantastiques qui vient tourner le clip d'ouverture du défilé d'une grande enseigne de haute couture. Sur place et loin de sa famille, elle apprend qu'elle a un cancer du sein, ce qui renvoie aux vies réelles de l'actrice américaine et d'Alice Vinocourt. Mais le film nous présente aussi Angèle, maquilleuse qui veut devenir autrice, et la jeune mannequin débutante soudanaise Ada, la mode version coulisses avec ses petites mains, son personnel jetable, ses souffrances, un décor et une thématique qui ont attiré la cinéaste française.
C'est vrai qu'on sort là d'une fashion week et nos réseaux sont inondés de toutes ces images de tapis rouges. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de déplacer le regard, de mettre dans la lumière des femmes qui sont dans l'ombre. Et justement, ces mannequins, regardez cette Fashion Week dans le point de vue d'une jeune fille africaine qui vient du Sud-Soudan, qui vient de la guerre. L'actrice qui interprète ce rôle, c'est vraiment son histoire. Elle est vraiment arrivée, elle a fui la guerre, elle a menti à son père.
Vous avez misé sur moi ?
Ouais, bien sûr.
Oh oui, you're going to be in a movie.
I don't know if this is really what I want to do.
Ne regarde pas, suis ma main.
Il y a une fille aussi qui vient d'Ukraine et de Kiev pour la Fashion Week. En fait, j'ai l'impression que la mode pénètre notre monde et moi, j'ai voulu montrer comme aussi le monde pénètre la mode.
Il va falloir que vous mettiez votre vie de côté un petit moment.
Je ne comprends pas.
Et c'est justement cet envers du décor qui est le plus intéressant dans Couture, comme ce plan magnifique où notre jeune mannequin prend des glaçons dans un seau à champagne pour soulager ses pieds meurtris. En revanche, toute la partie sur Angelina Jolie, filmée comme une star d'Hollywood, hélas, est moins convaincante. Enfin, un buddy movie ou film de potes à la française sur deux agents des stars tricolores de la NBA, la ligue de basket américaine, partie de rien pour arriver très haut. C'est Le rêve américain d'Anthony Marciano avec Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi, le divertissement sympathique et plutôt réussi de la semaine.
Les sorties cinéma et la sélection de Matteo Maestracci, service culture de France Info.
Matteo Maestracci avec Renaud Blanc, les experts cinéma à retrouver sur franceinfo.fr.
Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice.
Dahlia, de sexe féminin, âgée de 6 semaines, a été enlevée le 19 février 2026 à Épinay-sur-Seine. Son frère et sa sœur, Naël, 18 mois, et Éline, 2 ans et demi, ont été enlevés simultanément. Ils étaient confiés à l'ASE. Ils ont les yeux et cheveux bruns. Dahlia née prématurément présente une cardiopathie. Sa prise en charge médicale est indispensable dans les 48 heures. Les suspects sont les parents, Abdelkader Ben Abderrahman, 24 ans, 1m70, mince, cheveux et yeux bruns, possible griffure au visage. Shaïma Attab, 20 ans, mesurant entre 1m62 et 1m65, mince, cheveux et yeux bruns, ils sont susceptibles de tenter de quitter le territoire national. Si vous localisez les enfants, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte-enlèvement@intérieur.gouv.fr.
La Mini Cooper, vous l'aimez pourquoi ? Sa conduite, son look so British ?
Avec une dose de style et d'innovation en plus, la Mini Cooper électrique reste plus iconique que jamais. Rouler dans une icône, ça n'a pas de prix, surtout à ce prix-là. Profitez de la Mini Cooper E-Finition Blackyard des 320€ par mois. Premier loyer de 320€ après déduction de la prime C2E de 345€. LLD 48 mois, 40 000 km. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 mars 2026. Si accord BMW Finance selon stock disponible. Conditions sur mini.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Et c'est l'heure d'une nouvelle météo à 6h29 sur France Info avec Patricia Charbonnier. Des températures en hausse, Patricia, et un temps plus calme.
Oui, avec même un pic de douceur attendu à partir de demain et jusqu'en milieu de semaine prochaine. Déjà cet après-midi, les températures sont en hausse dans le sud jusqu'à 20 degrés à Toulon. On attend 15 à Paris, 14 à Nantes et 11 degrés à Strasbourg et côté ciel. Alors l'amélioration est très nette sur la moitié sud du pays avec là le retour du soleil. Encore un peu de mistral et de tramontane en Méditerranée. Attention, Météo France a levé sa vigilance orange à avalanche, mais le risque est encore très marqué aujourd'hui dans les Alpes et sur la moitié nord. Le temps reste encore très nuageux avec quelques pluies faibles sur le quart nord-est du pays. Une petite dégradation pluvieuse cet après-midi sur les côtes de la Manche et on espère quand même quelques éclaircies sur l'Île-de-France, le centre-Val de Loire et le Poitou-Charentes.
Patricia Charbonnier, merci d'écouter France Info. Il est 6h30.
France Info. Jean-Christophe Martin.
C'est la plus grande ferme de France, le salon de l'agriculture inauguré ce matin par Emmanuel Macron. 100 vaches cette année pour cause d'épidémie de dermatose et sans la Confédération paysanne ni la coordination rurale qui boycottent le rendez-vous entre les syndicats et le président. Le président de la coordination rurale, deuxième syndicat agricole, a lui prévenu que l'accueil risque d'être rude et un important dispositif de sécurité va entourer le chef de l'État, Paul Barcelone.
Dans un climat plutôt hostile, la coordination rurale annonce boycotter le petit déjeuner prévu autour d'Emmanuel Macron. Le syndicat, réputé proche de l'extrême droite, lui déconseille de s'approcher de son stand. Le président, pas le bienvenu non plus selon la Confédération paysanne. Il va pourtant bien couper le ruban vers 9h avant de déambuler dans les allées où il ne croisera pas de bovins. Emmanuel Macron avait suggéré aux organisateurs de revoir leur jugement alors qu'il n'y a plus aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse. Ce salon reste un moment de vérité selon la FNSEA, application du traité de libre-échange avec les pays du Mercosur, prix du lait, simplification administrative. Mais lors de cette journée marathon, Emmanuel Macron ne pourra pas éviter les questions, notamment des journalistes, sur les conséquences politiques suite à la mort du militant nationaliste Quentin de Ranque à Lyon. Le président a appelé au calme cette semaine et invité les partis extrêmes à faire le ménage dans leurs rangs.
Paul Barcelone du service politique de France Info. Une marche en hommage au militant identitaire Quentin de Ranque est donc organisée aujourd'hui à Lyon cet après-midi. Ce militant battu à mort par des militants d'ultra-gauche. Marche qui sera encadrée par un très gros dispositif des forces de l'ordre. Les autorités redoutant des affrontements entre les militants des deux extrêmes. 4 compagnies de CRS seront mobilisées, 2 escadrons de gendarmerie et près de 500 policiers. Le ministère de l'Intérieur anticipe la présence dans cette marche de 2 à 3 000 participants répondant à l'appel relayé par des groupuscules d'ultra-droite défilés autorisés sur un parcours très limité de moins d'un kilomètre et demi qui se terminera sur les lieux de l'agression. De fausses alertes à la bombe ont visé au moins 4 lieux emblématiques de Paris hier soir. La Tour Eiffel, le Bataclan, la Tour Montparnasse et Sciences Po Paris avec des messages prévenant de la présence d'explosifs. 2 de ces endroits ont dû être évacués. Marc Bertrand.
L'alerte est donnée autour de 18h. Des messages disant qu'il y a une bombe visent la Tour Montparnasse, le Bataclan, la Tour Eiffel et puis Sciences Po Paris. 2 des 4 sites, la Grande École Parisienne et la Tour Montparnasse, décident par mesure de sécurité de faire évacuer leurs locaux le temps que la police opère une levée de doute avec des maîtres chiens spécialisés dans la recherche d'explosifs. Levée de doute rapide à Sciences Po Paris. En revanche, les policiers sont restés jusque tard hier soir à parcourir les 59 étages de la Tour Montparnasse, heureusement peu fréquentée en ce début d'année, puisqu'elle est en partie en travaux.
Marc Bertrand, c'est un camouflet pour Donald Trump. La Cour suprême américaine juge illégale une bonne partie des droits de douane décrétés par le président américain. C'est le pilier de sa politique économique qui est remis en cause alors que la Cour suprême est composée en majorité de juges conservateurs, certains qu'il a lui-même nommés. La contre-attaque de Donald Trump a été immédiate avec une prise à partie rarissime des juges de la Cour suprême traités d'idiots et de caniches, affirmant aussi qu'ils ont cédé à des intérêts étrangers. Donald Trump qui riposte en signant dès hier soir un décret qui impose une nouvelle taxe mondiale de 10% pour les importations visant presque tous les pays et tous les produits. Vous écoutez France Info, il est 6h34 et c'est l'heure du sport.
France Info Sport avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. Rendez-vous sur FreePro.com.
Ils ne veulent pas quitter les Jeux d'hiver de Milan-Cortina sans avoir une médaille d'or autour du cou en ski alpinisme. Émilie Arop et Thibaut Anselmé seront associés à partir de 13h30 pour le relais mixte. Les deux Français sont doubles champions du monde en titre et logiquement favoris de la course. Ils veulent surtout faire oublier leur deuxième et troisième place en sprint. Émilie Arop et Thibaut Anselmé qui visent cette fois la médaille d'or dans ce relais mixte. C'est aussi clairement l'objectif de Léo Viré, l'entraîneur principal de l'équipe de France.
On va essayer de faire une course pleine tout à l'heure, de manière à ce qu'on reparte en tout cas sans regret, avec, on l'espère, une émotion hyper positive. Mais oui, clairement, là, on a envie de bien faire et on va bien faire.
Double champion du monde en titre, ce sont eux les favoris.
Oui, là, clairement, ce sont eux les favoris et ils ont beaucoup travaillé. On a fait beaucoup évoluer aussi le point de vue technique, tactique et stratégique. Et je pense qu'ils ont toutes les cartes en main pour bien faire, eux comme le staff, et ils ont toute la France derrière eux, donc ils manqueront pas d'être au rendez-vous.
C'est quoi le secret d'un bon relais mixte ?
Bon, le secret d'un bon relais mixte, c'est d'avoir une stratégie déjà, d'être capable de l'adapter en temps voulu, selon ce qui se passe, et puis d'associer deux personnes qui se connaissent bien, qui savent courir ensemble, et qui sont solides physiquement, polyvalents et solides mentalement. Je pense que voilà, les deux médailles qu'il y a eu précédemment, ben, les auront libérées et on verra des athlètes libres et heureux aujourd'hui.
C'est quoi une bonne stratégie ?
Ah, une bonne stratégie, ça c'est une question complexe. Ben, c'est déjà faire un bon audit des forces en présence, des adversaires, avoir une belle lecture des courses précédentes. Et puis après, ben, c'est en fonction de ses forces et des faiblesses identifiées, ben, établir une stratégie pour les mettre en difficulté et puis exprimer de la meilleure des manières possibles leur potentiel.
Alors, il y a une petite frustration en sprint, c'est qu'on a l'impression que tout se joue dans la montée et que la descente, finalement, c'est presque une simple formalité. Qu'est-ce qu'il faudrait changer en sprint ? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une grande bande avec en fait de la poudreuse, en fait de la neige non préparée ?
Ouais, c'est sûr. C'est des questions intéressantes qu'on s'est beaucoup posées. Nous, voilà, les coachs, les athlètes, on a poussé en ce sens-là. On aurait adoré avoir une descente libre. Maintenant, j'entends qu'il y a aussi des questions de sécurité, que voilà, c'est pas forcément facile à faire. Mais c'est sûr qu'à l'avenir, peut-être un champ de bosse avec quelques portes par-ci par-là, ce serait pas mal.
L'équipe de France, l'entraîneur principal de l'équipe de France de ski alpinisme, Léo Viré, et l'épreuve à partir de 13h30 pour ce relais mixte en direct sur France Info, évidemment. Et encore une fois, une déception pour le ski cross français à ces Jeux d'hiver. Marielle Berger-Sabatel termine seulement quatrième au pied du podium, cruel évidemment, pour la skieuse qui vit sa dernière saison, mais qui en est à ses troisièmes Jeux olympiques et qui a envie d'y trouver du positif.
Non, la pire, c'est dernier, je crois. Enfin, je veux pas cracher sur la dernière non plus, mais il faut pas dire que c'est la pire parce que ça reste quatrième aux Jeux Olympiques. Tout le monde peut pas non plus l'avoir, mon meilleur résultat aux Jeux. Bien sûr que j'aurais voulu finir sur le podium. Elles ont été meilleures, elles ont pas laissé de porte ouverte en finale. Ça se joue pas à grand chose, ça bascule pas pour moi, mais c'était quand même dans le match et voilà, sur un parcours qui me convenait pas forcément de base, j'ai réussi quand même à tirer mon épingle du jeu, donc, c'est clairement pas l'issue que je voulais, mais je crois qu'il faut quand même prendre un petit peu de recul et se dire que c'est quand même pas si mal.
Marielle, vous faites quand même un superbe parcours, une superbe saison pour arriver à cette finale olympique, votre première.
Oui, c'est mon meilleur résultat, ça reste quatrième aux Jeux Olympiques. C'est sûr que c'est pas une médaille, mais et voilà, être encore à ce niveau et pouvoir me battre pour une médaille olympique, c'était quand même l'objectif et ça reste... Bah, une fierté, il faut que ce soit une fierté en tout cas, je pense.
L'émotion qu'on voit là dans vos yeux, elle est liée à la déception de cette quatrième place ou elle est liée à la conscience que ce sera les derniers Jeux puisque c'est la dernière saison ?
Ouais, je crois surtout que c'est la quatrième place. Que ce soit la dernière saison, bon, bah, je le sais, je l'ai décidé. D'un côté, j'ai aussi la chance d'avoir vécu ces Jeux Olympiques et voilà, c'est pas donné à tout le monde non plus. Je suis quand même déjà contente, voilà, d'avoir pu faire cette finale-là.
Marielle Berger-Sabatel, quatrième au ski cross. Elle répondait à Fanny Lechevestrier aujourd'hui. Place aux hommes pour la dernière chance de médaille dans cette discipline. Les huitièmes de finale à partir de midi à suivre, bien sûr, sur France Info. Et à 7h10, dans une dizaine de minutes, le portrait d'actu ce matin, celui de Quentin Fillon-Maillet qui brille dans ses Jeux d'hiver. Il est devenu le Français le plus médaillé de l'histoire olympique, tout jeu et toute discipline confondue, avec une 9e médaille pour le biathlète. Le portrait d'actu, c'est dans 10 minutes.
France Info, 6h-7h, Jean-Christophe Martin.
Il est 7h-20, les crues vont persister tout le week-end et au-delà. Avertissement de Vigicrue pour les trois départements encore placés en vigilance rouge de Météo France, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime. Le fleuve Charente atteindra son pic sans doute aujourd'hui à Saintes. 600 foyers ont déjà été évacués et un dilemme pour les autres sinistrés. Il y a ceux qui veulent rester et protéger leur maison ce week-end et ceux qui aimeraient bien prendre un peu de recul. Sur place, pour France Info, Yvan Plantaille.
Yann aurait bien pris le large ce week-end, mais ce trentenaire va plutôt faire tourner les 4 pompes à eau qu'il a achetées en milieu de semaine.
J'ai fait péter mon compte en banque et puis, j'ai mis ces pompes-là. Donc j'en ai 2 qui tournent en continu et j'en ai pris 2 en plus au cas où j'ai un barrage qui cède ou un truc comme ça.
Ça vous a coûté combien les 4 ?
À peu près 400€ pour 4 pompes. 500€ le groupe électrogène.
Il a 5 cm au rez-de-chaussée de sa maison et il vit avec sa conjointe à l'étage. Tous les deux se relaient pour actionner les pompes.
J'aurais préféré bouger, mais je fais en sorte que ma maison prenne le moins de dégâts possible. Sur les murs, l'électroménager, un petit peu tout. Je maintiens le niveau le plus bas possible et je fais cette permanence de manière à ce que les pompes fonctionnent, se désamorcent pas, etc. C'est que les assurances aujourd'hui nous suivent, mais peut-être que dans un an, ils suivront plus.
Nous arrivons devant chez Tom, grâce aux planches qui tiennent en équilibre sur des parpaings. Sa mère part se changer les idées ce week-end, mais lui, pas tellement.
Bah moi, ça, je reste à Saintes. Elle ne sera pas à Saintes, mais je vais faire des allers-retours quand même, parce que déjà, j'ai eu du passage, là, il y a 2 jours. J'ai entendu des jeunes. Enfin, j'ai des jeunes, je pense. Et ils sont rentrés, j'ai fait tomber mon briquet et ça a couru, donc ça attire, quoi.
Vous vous sentez un peu isolé ou comment ça se passe ?
Non, ça va, parce que moi, j'ai les lattes, là. Enfin, j'ai les grandes lattes pour sortir, donc ça va.
À l'inverse, Gaëtan range ses cuissardes dans la voiture pour le week-end, direction le centre de la France. Le contexte devenait un peu lourd.
Non, j'ai pas d'eau chez moi. J'ai pas d'électricité non plus, d'ailleurs. Je suis au 2e étage, donc ça risque pas grand-chose. Ce week-end, je vais aller chez ma compagne qui habite à Tours. Comme ça, je vais pouvoir prendre un peu d'eau chaude, un peu d'électricité, un peu de réconfort. Et puis lundi, on revient.
Et ce sera normalement la décrue qui devrait prendre plusieurs jours.
Yvan Planteil à Saintes pour France Info. Dans les prochaines minutes, on va faire l'état des lieux des risques d'avalanche dans les Alpes. Des risques très importants alors que ce week-end est un week-end de chasse et croisée. Des vacanciers dans un instant. Ce sera d'abord l'info en une minute.
Et vous, la Mini Cooper, vous l'aimez pourquoi ? Sa conduite, son look so British ? Avec une dose de style et d'innovation en plus, la Mini Cooper électrique reste plus iconique que jamais. Rouler dans une icône, ça n'a pas de prix, surtout à ce prix-là. Profitez de la Mini Cooper E-Finition Blackyard des 320€ par mois. Premier loyer de 320€ après déduction de la prime C2E de 345€. LLD 48 mois, 40 000 km. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 mars 2026. Si accord BMW Finance selon stock disponible. Conditions sur mini.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
À partir de 65 ans, on a plus que jamais envie de...
bouger !
Profiter.
S'éclater.
Se dépasser.
Ne laissez pas la pneumonie à pneumocoque vous priver de ces moments de vie. Avec l'âge, votre système immunitaire s'affaiblit. La vaccination et les gestes barrières peuvent vous protéger de conséquences parfois graves. Vous avez 65 ans ou plus, vous êtes à risque. Parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier. Cette campagne d'information est à l'initiative de l'entreprise de santé Pfizer.
4 anneaux, une évidence. Découvrez l'Audi Q4 e-tron, le SUV compact 100% électrique en finition S-Line suréquipé. L'incontournable de la gamme avec une autonomie allant jusqu'à 545 km. À partir de 490€ par mois avec apport. Réservez votre essai chez votre partenaire Audi.
Offre en LLD 37 mois 30 000 km, premier loyer de 7 300€ ramené à 2 700€ après déduction de la prime CE. Valable pour toute commande d'une Audi Q4 e-tron dans le réseau participant en France. Offre réservée aux particuliers, si accord par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice.
Dahlia, de sexe féminin, âgée de 6 semaines, a été enlevée le 19 février 2026 à Épinay-sur-Seine. Son frère et sa sœur, Naël, 18 mois, et Éline, 2 ans et demi, ont été enlevés simultanément. Ils étaient confiés à l'ASE. Ils ont les yeux et cheveux bruns. Dahlia, née prématurément, présente une cardiopathie. Sa prise en charge médicale est indispensable dans les 48 heures. Les suspects sont les parents, Abdelkader Ben Abderrahman, 24 ans, 1m70, mince, cheveux et yeux bruns, possible griffure au visage. Shaïma Attab, 20 ans, mesurant entre 1m62 et 1m65, mince, cheveux et yeux bruns. Ils sont susceptibles de tenter de quitter le territoire national. Si vous localisez les enfants, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte-enlèvement@intérieur.gouv.fr.
France Info, 6h-7h.
L'essentiel de l'actualité à 7h moins le quart, c'est avec Pierre Boudias. Le premier titre, Pierre, un dispositif policier extrêmement important déployé à Lyon.
Pour encadrer la marge d'hommage au militant identitaire Quentin Durand qui s'élancera à 15h de la place Jean Jaurès, des milliers de membres des mouvances d'extrême droite sont attendus. Des militants d'ultra-gauche pourraient également faire le déplacement, faisant craindre des affrontements. Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Charente-Maritime maintenus en vigilance rouge pour crue. 9 départements restent également orange alors que la France a connu hier son 37e jour de pluie consécutif, un record depuis les années 50. La situation va notamment rester compliquée tout le week-end à Angers et à Saintes, où une partie des rues devrait rester inondée. Deux mineurs de 16 ans mis en examen, soupçonnés d'avoir projeté des attentats terroristes. Annonce du parquet national antiterroriste, 3 jours après l'interpellation des jeunes hommes dans le Nord. Radicalisés en ligne, ils auraient envisagé de cibler un centre commercial ou une salle de concert. L'un d'eux a été placé en détention. Et puis, de belles chances de médailles pour les Bleus aux Jeux de Milan-Cortina aujourd'hui. Julia Simon et Lou Jean Monod viseront l'or lors de la Master. Start, première place dans le viseur également pour le relais par équipe en ski alpinisme avant dernier jour des Jeux. À suivre bien sûr sur France Info.
France Info.
Alors que deux zones sont en vacances scolaires depuis hier soir, la SNCF amène ce week-end un nombre record de passagers vers les Alpes. Beaucoup de vacanciers aussi sur la route et les conseils de prudence à rappeler. Il y a beaucoup de neige, une circulation qui s'annonce difficile et même certaines routes d'accès coupées. Le risque d'avalanche est aussi très élevé. Certaines stations ont pris des arrêtés pour interdire le hors-piste. C'est le cas notamment de la Clusaz en Haute-Savoie. Jean-Luc Bock est lui maire de la Plagne-Tarentaise en Savoie, président de l'Association nationale des maires de stations de montagne et président aussi de France Montagne.
On est en train de vivre des records puisqu'on a environ à 2000 mètres d'altitude quasiment 2,50 mètres de neige fraîche qui sont tombées en l'espace d'une semaine. Et il faut remonter 50 ans en arrière pour avoir le même volume et le même niveau d'enneigement en une période aussi courte. Donc oui, on vit des records. Par contre, on sait que tous les professionnels sont actifs, que ce soit les départements, que ce soit les services autoroutiers ou alors évidemment les services communaux et toutes les équipes dans les stations. Tous sont à pied d'œuvre depuis un peu plus d'une semaine et ils essaient de dégager tout ce qu'ils peuvent pour accueillir demain la nouvelle vague de vacanciers.
Alors, est-ce qu'il reste tout de même quelques endroits assez difficiles où il va falloir faire preuve de prudence, mais aussi de patience ?
Les axes principaux sont dégagés. Par contre, tout ce qui concerne les routes de moindre importance sont quelquefois encore un petit peu difficiles d'accès et surtout les stationnements sont compliqués. Donc, il faut demain toute la présence des agents de partout sur les stations pour tout dégager. Et surtout, il y a une chose qui est importante, c'est que le risque d'avalanche est de 4 sur 5, sur une échelle de 5. Donc, ça veut dire qu'il est très important et que ces volumes de neige qui sont tombés sont instables. Donc, il faut être prudent et il faut éviter, tant que faire se peut, d'aller hors-piste, même quelquefois si on a cette connaissance ou si on est encadré. Je pense que la vigilance est la première des choses et les règles élémentaires de base et de sécurité font que les professionnels, que toutes les personnes qui sont en station comprennent à un moment, quand c'est trop dangereux, quand c'est trop instable, eh ben, il faut attendre. Même si les skis démangent, il faut attendre et il faut patienter. C'est la patience qui est mère de prudence.
Jean-Luc Bosch, maire de la Plagne Tarentaise, président de l'Association nationale des maires des stations de montagne. Il répondait sur France Info à Julien Langlais. Dans 5 minutes, le billet science au week-end de France Info, les découvertes de Bill François. D'abord, à 7h10, le portrait d'actu. Le portrait d'actu ce matin, c'est celui de Quentin Fillon-Maillet qui brille aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Le biathlète est même entré dans l'histoire du sport avec 9 médailles, ce qui en fait le Français le plus médaillé de l'histoire olympique. Jeux d'été et jeux d'hiver confondus, ce portrait d'actu signé pour France Info, Anne Lamotte.
Quentin Fillon-Maillet a du mal à tenir en place. En vacances, une demi-heure de transat maximum. Ensuite, il nage, il roule ou il court. Il a toujours été comme ça. Petit, à l'école, quand il doit rester des heures assis, c'est la corvée. En plus, il est dyslexique. Quentin préfère aller dehors. Le grand air, c'est son truc. Profiter du petit champ derrière la maison à Saint-Laurent-en-Grandvaux, son village du Jura. Ses parents lui ont transmis le virus du ski de fond. Et puis quand il fait moche, il adore s'enfermer avec ses copains dans l'ancien atelier de l'entreprise familiale. Une entreprise de menuiserie et de ferronnerie. Il y bidouille un tas de trucs. Il raconte dans le podcast dédié au sport, Extraterrien.
Et moi, j'ai passé des après-midi entières à fabriquer des arcs, des arbalètes. On aimait beaucoup les choses qui explosent ou qui lancent, voilà. Pour faire des bêtises en général. Et un jour, mon cousin, on était dans un terrain vague à côté de l'entreprise, la nouvelle entreprise pour le coup. Et il démarrait le biathlon et il m'a fait tester, il m'a fait tirer à sa carabine. Et le ressenti de cette carabine, l'odeur de la poudre et tout ça, ça a dit, mais attends, c'est génial ce sport. Parce que tu fais en plus du ski de fond et en plus tu tires avec quelque chose que tu peux bricoler. Et j'ai adoré la fusion de ces deux disciplines qui était parfaite pour moi, en fait.
À l'époque, Quentin Fillon-Maillet a 14 ans et du caractère. Il est discret, mais borné. Quand il a un objectif, il ne le lâche pas. Et depuis le début, son objectif est clair, devenir le meilleur biathlète du monde. Ce n'est pas gagné. En tir, surtout en position couchée, il n'est pas particulièrement doué. C'est lui qui le dit. Il emploie même le mot « laborieux ». En 2018, il participe quand même aux Jeux Olympiques de Pyeongchang, un échec. Mais il a toujours son objectif en tête. C'est 4 ans plus tard, en 2022, aux JO de Pékin, qu'il fait une razzia.
Yes, et le 20 sur 20 pour incroyable. Quentin Fillon-Maillet.
5 médailles, du jamais vu pour un Français dans les mêmes Jeux d'hiver. Dans la foulée, il décroche le gros globe de cristal. Ça veut dire que toute épreuve confondue sur la saison, individuel, sprint, poursuite, mass start, c'est lui qui domine le biathlon mondial. Objectif atteint donc. Il faut dire que Quentin Fillon-Maillet s'accroche comme personne. Dans le documentaire « En ligne de mire » disponible sur sa chaîne YouTube, son collègue biathlète, Émilien Jacquelin, confirme.
Quand il est en course, Quentin, faut pas trop le chercher. C'est vrai que... Même avant le départ, j'essaie toujours de parler avec un dernier coéquipier avant le départ. Et c'est pas forcément Quentin que je vais chercher parce qu'il va déjà être très concentré et à son affaire. C'est quelqu'un qui se donne à 100%, qui a la hargne. On dit que c'est le Morbac, mais c'est vrai que ce surnom lui va bien parce que c'est vraiment cet état d'esprit-là qu'il a à chaque course.
Fait-on plus persévérant et plus méthodique que Quentin Fillon-Maillet, le Morbac? Le champion est tellement méticuleux, accro aux micro-détails qu'il confectionne, c'est rare sur le circuit, sa propre carabine. Il commence sur une feuille blanche avec des croquis et finit carrément parfois derrière les machines. Il se souvient de ses bricolages d'enfant et il a fait un BTS de conception industrielle. Sa carabine, il la veut toujours plus précise, plus performante, comme sa tête et son corps. Quentin Fillon-Maillet, c'est monsieur toujours plus, et parfois trop. Comme après les Jeux de Pékin, il est à bout de force, mais impossible de le calmer. Ses coachs ont beau le mettre en garde, il reprend l'entraînement beaucoup trop tôt. Résultat, en 2023, il termine la saison au 16e rang mondial. Depuis, Quentin Fillon-Maillet apprend à ne pas skier. Comme il y a un an en Italie, il explique sur Eurosport.
À Anterselva, j'ai fait 3 jours de repos avant les premières courses du vendredi. Ça a été assez dur pour moi parce que j'aime beaucoup faire du sport. Et à Anterselva, quand on retrouve les premières conditions d'hiver et qu'on me dit non, tu peux pas sortir, tu dois rester tranquille. J'ai le droit de sortir, mais marcher et ne pas skier. Donc ça a été, j'avais jamais fait jusqu'à présent 3 jours de repos consécutifs. Et ça me fait réfléchir aussi sur des changements un peu radicaux, de switcher encore plus et de dire ben les périodes d'entraînement sont très intenses, mais les périodes de repos aussi sont très cool aussi.
Et au vu de son palmarès au JO de Milan Cortina, on se dit que la stratégie du repos forcé a plutôt bien marché.
Le portrait d'actu de Quentin Fillon-Maillet, signé Anne Lamotte, à retrouver sur franceinfo.fr. À 6h54, c'est l'heure du billet science week-end de France Info, Bill François avec Renaud Bernard.
Le billet science à présent avec Bill François. Bonjour Bill.
Bonjour.
Une découverte qui défriche la semaine dernière, une étude de l'université d'Aarhus au Danemark nous a révélé les paysages de l'Europe à la préhistoire et surprise, bien avant l'invention de l'agriculture, nos ancêtres transformaient déjà la campagne. Question Bill, comment ?
C'est l'alliance de plusieurs sciences, l'archéologie, l'écologie, mais surtout la palynologie, c'est-à-dire la science des pollens, qui a permis aux chercheurs de reconstituer la végétation du passé. En y ajoutant un modèle informatique bourré d'intelligence artificielle, ils se sont penchés sur deux époques où l'Europe était tempérée. La dernière période interglaciaire, il y a 120 000 ans, où notre continent n'était peuplé que de Néandertaliens, puis le début de l'Holocène, il y a 10 000 ans, juste après le dernier âge glaciaire, où vivaient alors déjà les Homo sapiens. Et dans les deux cas, le modèle informatique est formel. Les facteurs naturels ne suffisent pas à comprendre ce qu'on observe au niveau des paysages. Le seul moyen de l'expliquer, c'est de mettre les humains dans l'équation.
Mais comment, Bill, ces humains ont-ils pu transformer leur environnement ? On était littéralement à l'âge de pierre.
On n'avait pas d'agriculture, en effet, mais on modifiait déjà le paysage de deux manières. Le feu, qui a tendance à déboiser, et la chasse, qui a tendance à reboiser en supprimant les animaux herbivores. Il faut imaginer qu'à l'époque, l'Europe fourmillait de hardes de bisons, d'aurochs, d'hippopotames terrestres, de rhinocéros ou même d'éléphants pesant jusqu'à 13 tonnes. Mieux que les meilleurs des débroussailleuses, des arracheurs de forêts sur pattes. Et en les chassant, nos ancêtres ont modifié 47% de la distribution des végétaux, près de la moitié des paysages. Certaines espèces de plantes ont disparu, d'autres ont bien failli, par exemple le noisetier, qui a besoin de prairies dégagées pour s'épanouir. Les hippopotames et les rhinocéros défrichaient autrefois pour lui, mais quand l'humain s'est développé, cet arbre, englouti par la forêt, a régressé jusqu'au bord de l'extinction.
Alors finalement, qu'est-ce qui a sauvé nos noisettes ?
Eh bien, c'est l'humain aussi. Car au moment où le noisetier est sur le point de disparaître, voilà qu'on invente l'agriculture et qu'on commence à le cultiver. Voilà, les écureuils peuvent respirer, l'arbre est sauvé, les derniers spécimens se sont ensuite multipliés jusqu'à aujourd'hui. La science souhaite donc à cet arbre survivant, même privé de ses amis rhinocéros, de continuer à nous régaler de pâtes à tartiner, mendiants et pralinés qui ont, vous le savez désormais, un arrière-goût préhistorique.
Et à consommer avec modération. Merci Bill. Le billet science signé Bill François sur France Info.
Le billet Science, et c'était bien Renaud Blanc avec Bill François. Le billet science à retrouver sur franceinfo.fr.
BMW. Trois notifications, 10 postes, 5 alertes. Et pourtant, vous n'allez retenir qu'une seule chose. Votre BMW Finition M Sport a un loyer exceptionnel et sans aucun apport. Jusqu'au 31 mars, pendant les jours M Sport, prenez le volant de votre BMW dès 290€ par mois, sans apport.
Offre valable pour une BMW 1 16 M Sport Design. LLD 39 mois, 30 000 km. Réservé aux particuliers si l'accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice.
Dahlia, de sexe féminin, âgée de 6 semaines, a été enlevée le 19 février 2026 à Épinay-sur-Seine. Son frère et sa sœur, Naël, 18 mois, et Éline, 2 ans et demi, ont été enlevés simultanément. Ils étaient confiés à l'ASE. Ils ont les yeux et cheveux bruns. Dahlia, née prématurément, présente une cardiopathie. Sa prise en charge médicale est indispensable dans les 48 heures. Les suspects sont les parents. Abdelkader Ben Abderrahman, 24 ans, 1m70, mince, cheveux et yeux bruns, possible griffure au visage. Shaïma Atab, 20 ans, mesurant entre 1m62 et 1m65, mince, cheveux et yeux bruns, ils sont susceptibles de tenter de quitter le territoire national. Si vous localisez les enfants, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte-enlèvement@intérieur.gouv.fr.
Et avant le journal, à 7h, la météo avec Patricia Charbonnier. Cette fois, Patricia, c'est le retour du soleil, en tout cas dans le sud. Pour le nord, il faudra attendre encore un peu.
Belle amélioration pour la moitié sud du pays pendant le week-end. Déjà aujourd'hui, le soleil va s'imposer entre les Pyrénées, le sud du Massif central et dans le sud-est. Attention, en montagne, Météo France a levé sa vigilance orange avalanche, mais le risque est encore très marqué dans les Alpes et sur la moitié nord. Donc, ça reste encore assez nuageux aujourd'hui et humide, avec quelques pluies le long des frontières du nord ce matin sur le nord-est, de la pluie cet après-midi près des côtes de la Manche, et on espère quand même quelques éclaircies en Île-de-France, sur le centre-Val de Loire et le Poitou-Charentes, avec des températures en hausse jusqu'à 20 degrés cet après-midi à Toulon, 15 à Paris, 12 à Nancy et 11 à Strasbourg.
Patricia Charbonnier, il est presque 7h, c'est le 7-10 de France Info, et jusqu'à 10h, c'est Benjamin Fontaine qui nous accompagne. Bonjour Benjamin.
Bonjour Jean-Christophe, bonjour Patricia.
Bonjour,
bonjour
Benjamin.
À toutes et à tous. Pierre Boudias, Laura Dulieu sont aussi là pour l'info. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Ta petite question du matin, est-ce qu'il y a un produit typiquement français qui dont vous raffolez?
Oui. Pâté, le pâté berrichon, pâté les acras antillais.
Ah, pas mal, Pierre.
Je me lance sur le kouign-amann breton.
Ah, pas mal, si jamais.
Et il est jamais trop tôt pour de la ligot.
Ouh là là.
Waouh.
Voilà, là, j'ai faim, c'est fini. En tout cas, tout ça, vous le savez, hein, on va le trouver au Salon de l'Agriculture pendant toute une semaine, porte de Versailles à Paris. Et nous y serons en direct tout au long de la journée sur France Info avec des invités, le public. On suivra aussi, bien sûr, ce matin la visite d'Emmanuel Macron. Merci de vous réveiller avec France Info. Bon début de week-end, il est 7h.